c'est l'heure du journal. Avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Conseil européen tendu à Bruxelles. Dès son arrivée, le chef du gouvernement italien a mis la pression sur les participants au sommet, réclamant des actes concrets sur la question migratoire. En Syrie, les bombardements contre la province de Deraa gagnent encore en intensité. Plus de 20 civils ont été tués aujourd'hui et l'ONU a dû suspendre ses convois humanitaires depuis la Jordanie. Le cimentier Lafarge, mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et financement d'une entreprise terroriste, une filiale du groupe est soupçonnée d'avoir contribué au financement de groupes djihadistes en Syrie. Et puis le droit à l'information plus fort que le droit à l'oubli. La Cour européenne des droits de l'homme rejette la requête de deux Allemands qui avaient été condamnés pour assassinat et qui voulaient faire retirer leur nom des archives en ligne de sites d'information. Sans surprise, le Conseil européen de Bruxelles s'est ouvert dans un climat de forte tension. Les 28 sont profondément divisés sur la question migratoire. Des divergences encore plus évidentes depuis que l'Italie a refusé d'accueillir les migrants recueillis au large de la Libye par deux bateaux humanitaires, l'Aquarius puis le Lifeline. Et aujourd'hui, c'est encore Rome qui a tapé du poing sur la table. Alors que les Européens sont censés discuter de leur politique migratoire ce soir, autour d'un dîner, le président du Conseil italien a prévenu dès son arrivée qu'il opposerait son veto aux conclusions du sommet s'il n'obtenait pas satisfaction, Mathilde Imberti.
Oui, une position qui ne surprend personne ici en Italie, puisque Giuseppe Conte avait annoncé la couleur devant la Chambre des députés dès hier. Il veut dépasser le règlement de Dublin, en clair, abolir la notion de pays de première arrivée qui fait peser sur l'Italie, mais aussi sur l'Espagne ou la Grèce, la responsabilité du traitement des demandes d'asile. Ce règlement implique le renvoi vers l'Italie de personnes qui avaient réussi à transiter vers le nord de l'Europe, mais doivent revenir dans la péninsule, car leur première demande a été enregistrée à leur débarquement sur les côtes italiennes. Rome exige par ailleurs une co-responsabilité dans les opérations de sauvetage en mer et dans la gestion des demandeurs d'asile avec un système permanent de répartition, pas au coup par coup selon les débarquements de navires, comme cela a été le cas avec le navire Aquarius ou avec le Lifeline dont vous venez de parler. L'Italie avance en tout 10 propositions à Bruxelles, dont la matrice serait la limitation des départs vers l'Europe. Rome propose d'établir des centres pour migrants en Afrique, aux frontières de la Libye, pour séparer migrants économiques et réfugiés en amont et éviter l'embouteillage dans les centres de détention libyens et conjurer les trafics le long des côtes libyennes. C'est à prendre ou à laisser, a prévenu le président du Conseil Conte. L'Italie a reçu des paroles de solidarité. Il est temps de passer aux actes, a-t-il déclaré, sitôt arrivé à Bruxelles. Cette posture sera-t-elle payante? Réponse après le dîner de ce soir entre les 27.
Mathilde Imberti en direct de Rome. Mais cet après-midi, les 28 avaient bien d'autres sujets à aborder, essentiellement économiques. Et il est d'autant plus important qu'ils parviennent à parler d'une seule voix que les relations sont tumultueuses avec les États-Unis, Quentin Dickinson.
Oui, et les autres sujets abordés par les 28 et demain 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont injustement sans doute, mais c'est ainsi, relégués à l'arrière-plan. Il y a tout d'abord le paquet économique et monétaire, qui a vu ces jours derniers une spectaculaire convergence entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, un rapprochement inespéré que seul explique l'affaiblissement politique actuel de la chancelière. Il s'agit en premier lieu de renforcer la zone euro de façon à la mettre autant que faire se peut à l'abri des aléas de la mondialisation. En somme, il convient de compléter les mesures prises dans l'urgence, dans le sillage de la crise de 2008 par Michel Barnier, alors commissaire européen. Autre chantier d'envergure, l'union bancaire européenne émerge lentement, tant les habitudes du secteur freinent la montée en puissance d'une entité que pourtant les professionnels réclament. Les relations, notamment commerciales, avec les États-Unis domineront également un pan de ce sommet. Dans la perspective de droits de douane supplémentaires dont Donald Trump envisage de frapper les importations chez lui de berlines européennes de haut de gamme, l'imminence d'un autre sommet bruxellois, celui de l'OTAN dans moins de 15 jours, est aussi sujet de préoccupation des Européens qui redoutent une nouvelle salve destructrice de leur interlocuteur américain. Enfin, demain, l'on abordera le casse-tête permanent du Brexit, en l'absence, bien sûr, de Theresa May.
Quentin Dickinson, à Bruxelles, l'offensive du régime syrien dans la province de Deraa, au sud du pays, se poursuit et même s'intensifie. En deux jours, on dénombre au moins 46 morts parmi les civils. Les Nations Unies ont dû suspendre leurs convois humanitaires vers cette zone proche de la frontière jordanienne où des dizaines de milliers de civils fuient les combats. Mathieu Laurent a joint le docteur Ziad Alissa, président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux, une ONG très présente en Syrie. Il constate que la situation humanitaire se détériore.
En plus des bombardements, en plus des victimes qui tombent tous les jours, il y a quand même là maintenant un manque de tout ce qui est aide humanitaire. On parle de l'alimentation, on parle de l'eau potable, on parle de médicaments et des équipements des centres médicaux dans cette zone-là.
des informations selon lesquelles 5 hôpitaux ont été détruits nous sont parvenues, vous confirmez ?
Oui, malheureusement, là on voit le même scénario qu'on a vu dans le nord de la Syrie, ça se répète, que ces bombardements épargnent pas les hôpitaux, épargnent pas les centres médicaux, ni les équipes soignantes. On a perdu, nous, 3 personnes qui travaillent avec notre organisation. On ne peut pas dire que erreur, on ne peut pas dire que c'est collateral damage, on ne peut pas dire que c'est par hasard. Et là, on se pose la question que celui qui bombarde, qu'est-ce qu'il cherche à bombarder un centre médical, bombarder un hôpital, et après faire une opération militaire, ça veut dire qu'on cherche à monter le nombre de victimes.
Comment les autorités jordaniennes se comportent-elles ?
Malheureusement, les frontières sont fermées. Ça complique plus les choses parce que cette zone-là, on voit quand même qu'elle est presque encerclée de partout. Et lorsque on voit quand même que les opérations militaires, ça intensifie, la seule maintenant endroit pour quand même que ces gens pour fuir, la seule endroit où ils peuvent aller en sécurité, ils cherchent la sécurité sur les frontières. Donc nous, est-ce qu'on lance un appel, on lance un appel même au gouvernement jordanien d'aider ces victimes-là, d'ouvrir les frontières, d'accueillir ces gens, de soigner les blessés et de donner un refuge pour ces gens qui cherchent la sécurité.
L'appel de Ziad Alissa de l'Union des organisations de secours et soins médicaux, très inquiet donc de la situation dans la province de Deraa. Le cimentier Lafarge est mis en examen. Le groupe français est soupçonné d'avoir versé, via sa filiale LCS, près de 13 millions d'euros entre 2011 et 2015 pour maintenir son usine en Syrie. Des sommes qui auraient profité à des groupes armés, dont l'État islamique. Bonsoir Florence Thurme.
Bonsoir.
La mise en examen du groupe français, en tant que personne morale, est d'autant plus frappante que Lafarge est notamment soupçonné de complicité de crimes contre l'humanité.
Oui, c'est la suite logique de l'instruction ouverte il y a tout juste un an et au cours de laquelle 8 cadres et dirigeants du groupe ont été mis en examen, mais avec une dimension supplémentaire que les ONG, parties civiles, n'hésitent pas à qualifier d'historique à l'échelle mondiale. Cette mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité prononcée vis-à-vis du cimentier Lafarge en tant que personne morale, une incrimination visée par la plainte initiale mais qui n'avait pas été retenue jusqu'à présent. Plus précisément, c'est la filiale syrienne de Lafarge, LSA, qui est soupçonné d'avoir versé près de 13 millions d'euros pour maintenir à tout prix son usine de Jalabiya dans le nord de la Syrie, alors que le pays s'enfonçait dans la guerre et le chaos. Les responsables auraient ainsi acheté à des groupes armés, parmi lesquels l'État islamique, un droit de passage et de circulation pour leurs salariés et les matières premières. Voilà ce que recoupent les incriminations de financement du terrorisme, violation d'un embargo, mise en danger de la vie d'autrui, également prononcée, en l'occurrence celle des salariés qui ont dû fuir l'usine, finalement abandonnée dans des conditions extrêmes. Par ailleurs, d'autres soupçons sont apparus à la lumière de récentes investigations qui portent sur la possible vente de ciment au groupe État islamique lui-même. Cette enquête hors norme a déjà pris une dimension internationale. La justice belge s'est associée à l'information judiciaire ouverte en France et les États-Unis commencent à s'y intéresser. Ce soir, le groupe Lafarge annonce son intention de faire appel de cette mise en examen. L'ONG Sherpa, elle, lui demande d'ouvrir immédiatement un fonds d'indemnisation destiné à ses anciens salariés sans attendre la fin de l'instruction.
Florence Thurme. La question migratoire domine le sommet européen de Bruxelles. Elle a également été évoquée par Emmanuel Macron lors d'un discours à l'Élysée consacré aux Outre-mer. Le chef de l'État a surtout parlé de création d'emplois, d'activités économiques. Mais au moment d'évoquer Mayotte, il a apporté son soutien à la proposition d'un sénateur LREM, proposition visant à limiter le droit du sol à Mayotte, Ludovic Piétenu.
Oui, sur l'île de Mayotte, 74% des enfants naissent de mères étrangères. Elles viennent au péril de leur vie, principalement des îles des Comores voisines. Si bien qu'aujourd'hui, sur ce bout de territoire tricolore, 41% des résidents ne sont pas de nationalité française. Au début du mois de juin, le Conseil d'État, saisi par le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, a estimé que l'île présentait des caractéristiques, des contraintes particulières. Si vous ajoutez à cela l'article 73 de la Constitution, qui permet aux territoires d'outre-mer d'adapter la législation nationale, eh bien tous les feux sont passés au vert pour limiter le droit du sol à Mayotte, conformément à un amendement d'un marcheur du Sénat auquel Emmanuel Macron a ce matin donc apporté ouvertement son soutien.
Cette évolution, je l'ai noté, fait consensus sur le territoire. C'est pourquoi je soutiens cette démarche qui me semble adaptée et équilibrée.
Le chef de l'État parle d'un consensus politique sur l'île, c'est vrai, il existe. On se souvient aussi de la pression qu'avait exercée le député de droite Mansour Kamardine et surtout son patron, les Républicains, Laurent Wauquiez, lors d'une visite sur l'île de Mayotte. C'était au début du mois de mars. Je vous propose d'entendre l'homme à l'origine de cet amendement, le sénateur Thani Mohamed Souali. Il se défend de succomber à quelconque pression ou sirène de la droite ou de l'extrême droite.
C'est vraiment très important dans ces sujets très très sensibles de ne pas faire croire que on est en train d'adopter la pensée du Front National, par exemple, pour ne citer que ce parti. Sur ce territoire, en fait, il y a deux fois plus de population que ce que les pouvoirs publics ont prévu pour l'épanouissement des Maoris. Eh bien, compte tenu de cette vague d'immigration intense, je dis dans ma proposition que, avant qu'un enfant puisse bénéficier du droit du sol, il faut que, à sa naissance, au moins l'un de ses parents soit en situation régulière depuis un délai d'au moins 3 mois.
La voici, cette adaptation, cette limitation du droit du sol pour Mayotte. Le texte doit maintenant recevoir le soutien des députés dès la semaine prochaine. Et c'est bien Emmanuel Macron lui-même qui, en s'exprimant ainsi ce matin, a encouragé ses troupes de l'Assemblée à soutenir la proposition.
Ludovic Piétenu. En cette dernière journée de grève unitaire des cheminots, la mobilisation s'est légèrement redressée. Elle est repassée au-dessus des 10%. Les perturbations sont comparables à hier. Demain, retour à la normale et la prochaine séquence de grève est prévue les 6 et 7 juillet. Mais l'appel n'est cette fois lancé que par la CGT et Sudrail. Par ailleurs, la CGT et Force ouvrière ont tenté une action commune aujourd'hui. Une journée de manifestation interprofessionnelle pour montrer que la contestation de la politique d'Emmanuel Macron s'ancre dans la durée. Quelques 120 initiatives ont été lancées sur le territoire. Plusieurs associations étudiantes ont rejoint le mouvement, mais la mobilisation était modeste. David Ravier a suivi le cortège parisien. À défaut d'être nombreux, les manifestants étaient motivés.
Au cœur du cortège, la mobilisation est présente chez les militants, mais le compte n'y est pas. Les dernières mobilisations pour stopper les réformes du gouvernement n'ont pas vraiment eu d'effet, ce qui expliquerait l'impression de manifestation en petit comité. En revanche, pour ceux qui se sont déplacés, il n'est pas question d'abandonner.
Il faut un contre-pouvoir, le contre-pouvoir il peut venir que de la rue.
Jean-Pierre Poli, délégué syndical CGT dans l'ingénierie, continue de soutenir les mouvements de contestation, même s'il déplore le manque d'engagement militant dans la société.
On regrette qu'une majorité de citoyens ne soit pas politisée, ne vote pas, ne soit pas adhérent à une organisation syndicale. Le problème, il est de là. Tous les citoyens sont concernés, mais la majorité ne se sent pas concerné par ignorance.
Si le cortège est plus clairsemé que d'habitude, chaque manifestant présent donne de la voix comme deux personnes. Entre les cris et les explosions assourdissantes, Françoise, militante au syndicat solidaire depuis 6 ans, continue de défiler dans la rue, seul moyen selon elle de se faire entendre.
Il faut quand même montrer, même si on sait que c'est un gouvernement bulldozer qui de toute façon n'écoute rien, parle de concertation, etc. Mais ces concertations, ce n'est pas discussion et prise en commun de décision. Il fait des concertations en disant « de toute façon, moi j'ai décidé ça, ça sera quand même comme ça ». C'est quand même important de montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on continue à ne pas être d'accord. C'est important parce que si on baisse les bras, c'est plus la peine.
Les militants pensent représenter le dernier rempart contre ce qu'ils appellent la casse sociale opérée par Emmanuel Macron. S'ils n'arrivent pas à faire infléchir le gouvernement par le nombre dans les manifestations, ils pensent arriver à le faire plier dans la durée, quitte à aller jusqu'à la manifestation permanente.
À 2 jours de la marche des fiertés trans, gays et lesbiennes, la France accueille pour la première fois la conférence annuelle de l'Association européenne des policiers LGBT. L'occasion de dresser un état des lieux des discriminations dans une Europe très disparate en matière d'égalité pour les homos et transsexuels. Le reportage de Christine Monclat à l'Hôtel de Ville de Paris.
200 képis, uniformes et écussons de policières, policiers et gendarmes venus de 16 pays européens, mais aucun représentant de l'Est. L'Association européenne des policiers LGBT n'a pas encore réussi à ouvrir d'antenne dans ces pays où la lutte contre l'homophobie et la transphobie reste un défi à part entière, nous explique le Suisse Patrick Thoman, qui préside cette association.
Non, je pense qu'on a beaucoup d'homophobie dans ces pays-là, mais la situation politiquement est un peu plus dure, je pense. Si on va à la Russie, la Russie a des nouvelles lois qui discriminent les LGBT spécialement. Et on le voit à l'Hungarie, on le voit à Pologne. Pour des personnes qui veulent commencer une association comme ça, on a un petit peu peur de le faire.
A fortiori pour des policiers au service de l'État, mais eux-mêmes LGBTI, I pour intersexe, qui doivent combattre l'homophobie en interne dans leurs institutions plutôt conservatrices et constater les violations des droits de ces communautés dans leur société. Et ceci ne concerne pas que les pays de l'Est. C'est le cas au Royaume-Uni, par exemple, où une ONG locale, Stonewall, affirme même que les actes homophobes ont bondi de plus de 140% depuis le référendum en faveur du Brexit. La police britannique ne veut pas donner de chiffres, mais pour Tracy Aror, qui est en poste à Liverpool, ce n'est malheureusement pas étonnant.
Les gens sont très anxieux. On s'est battu longtemps pour nos droits et certains ont peur d'en perdre avec le Brexit. Ce n'est pas mon sentiment. Moi, je crois plutôt qu'en tant que policier LGBT, on doit militer pour que les agresseurs soient vraiment arrêtés, puis punis, et faire aussi un travail d'éducation pour expliquer qu'il n'est pas normal de cibler une personne uniquement pour sa différence.
Cette année sont invités également des représentants du Canada, où se déroulera la 9e conférence de l'association l'an prochain, et des États-Unis, également aux prises avec un pouvoir assez peu gay-friendly, et où la haine anti-LGBTI est déjà allée jusqu'au terrorisme, comme l'ont rappelé les participants en rendant hommage aux 50 victimes de l'attentat contre une boîte de nuit gay à Orlando. C'était il y a à peine 2 ans.
Christine Moncla. La santé environnementale sera une priorité du quinquennat, promettait Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Et la 2e phase de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens devait normalement être présentée mardi prochain, le 3 juillet. Ces perturbateurs endocriniens, substances chimiques qui agissent sur le système hormonal et peuvent altérer la santé, on les retrouve partout dans l'alimentation, les médicaments, les cosmétiques. Réduire notre exposition aux perturbateurs endocriniens est donc une urgence, rappelle le réseau Environnement Santé, qui s'inquiète de cette échéance repoussée, Véronique Reberotte.
Oui, l'interdiction du bisphénol A ne doit pas faire oublier que nous sommes cernés par ces substances chimiques dans les tickets de caisse, les retardateurs de flamme dans les vêtements, les contenants aussi plastiques, hein, des aliments pour bébés, etc. Il y en a partout. Pays de référence en la matière de lutte contre ces perturbateurs endocriniens, la France, malgré les promesses, vous l'avez dit, volontaires du candidat Macron, pourrait ne plus être aussi déterminé à agir malgré l'urgence. C'est ce que craint le président du réseau Environnement Santé, André Sicolella. Il est partie prenante de la 2e phase de la stratégie mondiale contre les perturbateurs endocriniens qui devait donc être lancée la semaine prochaine.
Nous n'avons pas le document qui devait nous être soumis. On nous a dit d'ailleurs que ce document serait mis en consultation publique sans qu'on puisse effectivement le modifier, ce qui est contraire à ce qui avait été fait dans la première phase. La première phase, on avait discuté jusqu'au bout, on avait reformulé d'ailleurs beaucoup de propositions. On nous enlève effectivement la capacité de peser sur le projet. Deuxièmement, la personne qui était très impliquée sur ce projet, c'est Gérard Bapt, l'ancien député qui a présidé le groupe Santé Environnement, vient d'être débarqué sans ménagement, alors qu'il avait été renommé il y a 4 mois. Donc je pense que c'est un mauvais signal qui est envoyé.
Et la contamination par les perturbateurs endocriniens commence dans le ventre des mères avec de lourdes conséquences, bien sûr, pour les enfants. Barbara Domenech, c'est biologiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Toutes les femmes enceintes sont exposées à ce cocktail de produits chimiques qui inclut des perturbateurs endocriniens. Beaucoup de ces produits vont passer la barrière placentale et arriver dans le liquide amniotique où ils vont être présents pendant toute la vie de l'enfant. Donc on peut presque dire qu'il est conçu littéralement dans ce jus de produits chimiques. Donc, moi, je m'inquiète particulièrement avec l'équipe au muséum. On a vu que ça affecte le développement du cerveau. Ceci entrecoupe avec les données épidémiologiques qui montrent que l'exposition très élevée à certains de ces produits va réduire le quotient intellectuel de l'enfant ou augmenter le risque des troubles du style d'attention, de déficit d'attention.
Il y a des enfants en première ligne parce que leur cerveau, bien sûr, exposé aux perturbateurs endocriniens, eh bien, est en plein développement.
Vous qui écoutez ce journal, vous êtes forcément sensible au droit d'être informé, un droit que la Cour européenne des droits de l'homme met en avant dans son dernier arrêt, un droit qui prime, selon elle, sur le droit à l'oubli. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir.
La CEDH avait été saisie par 2 Allemands qui demandaient que leur nom soit effacé des archives de plusieurs sites d'information.
Oui, c'est un arrêt important qu'a rendu la CEDH car c'est la première fois qu'elle se prononce sur une requête liée au droit à l'oubli numérique, le respect de la vie privée invoqué par ses 2 frères allemands, donc condamnés dans une affaire d'assassinat il y a 25 ans, très médiatisé. Une fois sortis de prison, ils voulaient que les articles de presse archivés sur leur procès soient anonymisés. Mais la Cour de Strasbourg a donné raison ce matin au droit du public à être informé par les médias, contre donc le droit à l'oubli numérique. Mais attention à ne pas généraliser cette décision, nous explique le spécialiste de la CEDH et professeur à Sciences Po Paris, Nicolas Hervieux.
La Cour se concentre sur les circonstances de l'espèce en insistant d'abord sur le débat d'intérêt général qu'a suscité cette affaire en Allemagne. C'est une affaire qui a été très retentissante, donc n'importe quel fait divers ne serait pas traité à la même enseigne. Et le deuxième enjeu, qui est très important dans le raisonnement de la Cour, c'est le comportement des personnes qui souhaitaient l'anonymat. Eux-mêmes n'ont pas hésité à solliciter la presse pour médiatiser leur affaire à l'heure de solliciter de nouvelles voies de recours. Donc il y a dans l'analyse de la Cour d'abord une valorisation bien sûr de la liberté d'expression journalistique et du droit d'accès du public à l'information, mais pas de sacrifice pur et simple du droit au respect de la vie privée. Tout dépend de chaque affaire.
D'où la nécessité donc de traiter ces questions de droit à l'oubli numérique au cas par cas, affirme la CEDH. Elle fixe tout de même une limite pour ne pas que le droit à l'oubli numérique soit invoqué à tort et à travers. Elle rappelle enfin que l'essor des médias en ligne, bien plus que la presse papier, peut entraîner des atteintes préoccupantes à la vie privée.
Camille Magnard, il fera encore beau demain, mais des averses sont possibles sur le relief des Alpes du Sud, de la Corse et des Pyrénées. Les températures 12 à 21 degrés le matin, 20 à 25 l'après-midi près de la Manche, 27 à 33 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.